BFM Business, BFM Bourse, les pros des cryptos.
Parce que l'avenir est l'endroit où nous passerons tous le restant de nos jours. Les crypto-monnaies sont à l'honneur le vendredi sur BFM Business. On en parle avec Vincent Gann, toujours à mes côtés, TradingView France, Charlie Perrault. Bonjour Charlie. Journaliste au journal du net spécialisé des cryptoactifs, et Owen Simonin, alias Asher. Bonjour Owen.
Bonjour.
Que l'on retrouve en visio, le plus gros youtubeur francophone sur les cryptos. Le traditionnel point technique, peut-être pour démarrer sur le potentiel du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Ça a bien chauffé encore cette semaine, Vincent. Le cours du Bitcoin subit en partie la hausse de la volatilité aussi du marché action. Quel est le message là que nous envoie l'analyse technique immédiate sur le Bitcoin?
Alors, bonjour Owen, bonjour Charlie, ravi de vous retrouver chaque semaine. Alors, le marché action est sous pression, on l'a vu cette semaine. Nous savons que le cours du Bitcoin, depuis un an, est corrélé aux actifs risqués, corrélé à la tendance haussière des actions. Très bien. Mais au final, il n'y a eu aucun impact. Si on regarde l'analyse technique du cours du Bitcoin depuis 3 mois, en fait, il est stable. Parfaitement flat. Entre, je vais donner les niveaux en dollars, 44 000, 45 000 dollars et 60 000 dollars, il ne fait plus de nouveau plus haut, mais il n'entre pas pour autant en correction. C'est une phase de range, et moi je suis persuadé qu'après cette phase de range, la tendance haussière se relancera. Alors, cette semaine, il y a eu une petite alerte sur le marché action. Ça s'est traduit par quoi? Sur le cours du Bitcoin. Depuis les plus hauts, moins 20, moins 25%. Mais finalement, le marché n'a fait que balayer le range. Et aujourd'hui, on voit que sur le premier support, les capitaux reviennent à l'achat. Donc, d'un point de vue technique, cette semaine, même si on a la confirmation que c'est un marché volatile, mais ça, c'est pas une surprise, la tendance reste haussière sur le leader cryptographique.
Oui, le leader, de moins en moins leader quand même, parce qu'on se parlait il y a quelques jours, le Bitcoin était en train de passer sous les 50% de dominance face aux autres crypto-monnaies. Là, on est en train d'atteindre, de toucher le seuil des 40%. Comment est-ce qu'on voit la suite?
Alors effectivement, je rappelle aux auditeurs donc la dominance sur le marché des crypto-monnaies, c'est le poids d'une crypto dans la capitalisation boursière crypto. En début d'année, le cours du Bitcoin, c'était plus de 70% de l'ensemble, donc vraiment le leader. Maintenant, c'est environ 40%, 30 points de pourcentage perdus en 2 mois, alors que le marché s'est maintenu tout en haut. Moi, j'ai toujours considéré que c'était une bonne nouvelle. Ça montre que le marché crypto serait dû pour Bitcoin. C'est la rotation vers les alts, c'est la saison des altcoins.
Les altcoins, c'est les autres crypto-monnaies.
Exactement. La rotation sectorielle, des thématiques très fortes. Bon, il y a beaucoup de thématiques qui sont du vent, mais il y a aussi des thématiques très fortes. Et ce qui est surtout marquant depuis quelques semaines, c'est entre les deux leaders, d'une certaine façon. Vous en avez très bien parlé la semaine dernière lorsque vous avez parlé de l'Ether. C'est l'Ether qui en profite depuis quelques semaines, qui gagne, lui, en poids dans la capitalisation boursière. Donc, ce recul de la dominance du Bitcoin, c'est pas une mauvaise nouvelle. Là, par contre, on approche des plus bas historiques qui doivent être vers les 35%. C'est un seuil important, on verra s'il y a une réaction.
En effet, avec une actualité extrêmement riche qui a nourri les différents mouvements cette semaine, j'ai une question perso. Est-ce que dans la vie, vous vous méfiez davantage de vos ennemis ou plutôt de vos amis? Non, mais franchement, on peut se la poser cette question. Méfiez-vous de vos meilleurs amis? Elon Musk, le meilleur ami du Bitcoin, qui retourne complètement, peut-être pas complètement, mais enfin qui quand même fait l'effet d'une douche froide et nous annonce cette semaine finalement que les Américains ne pourront plus acheter leur Tesla avec des Bitcoins alors qu'il avait annoncé exactement l'inverse 2 mois auparavant. Ça peut surprendre. Charlie, on vous retrouve. Pourquoi cette décision, ce revirement, cette volte-face, ce retournement de veste d'Elon Musk avant-hier?
Selon Elon Musk, c'est pour des raisons écologiques, ce qui n'est évidemment pas très surprenant, puisque c'est un sujet sur lequel il est très investi, qui est au cœur en fait de ses différentes entreprises. Et on sait très bien que le Bitcoin, comme d'autres crypto-monnaies, consomme beaucoup d'énergie, comme d'ailleurs d'autres technologies. C'est vrai que c'est un des plus gros inconvénients de Bitcoin aujourd'hui, même si c'est pas non plus tout blanc, tout noir. C'est un sujet très très complexe. Mais on peut quand même s'étonner, c'est que Elon Musk découvre un peu que le Bitcoin soit pas compatible en fait avec ses valeurs écologiques, alors que c'est un débat qui est très régulièrement amené, autant d'ailleurs que celui du blanchiment et du financement du terrorisme. En fait, je pense que Elon Musk a surtout fait en fait cette annonce non pas vraiment pour des raisons écologiques, peut-être en partie, mais plutôt pour des raisons financières, puisque Tesla cherche en fait à entrer sur le marché américain des crédits renouvelables. Et en fait, c'est un marché qui est déjà plusieurs milliards de dollars. Et Tesla, en fait, comme d'autres constructeurs de véhicules électriques, voudrait bénéficier de ces crédits. C'est dans le cadre d'un grand programme américain sur les carburants renouvelables. Et en fait, en vendant ces crédits renouvelables aux industriels du type raffinage, etc. Et bah évidemment pour Tesla c'est des revenus supplémentaires. Et d'ailleurs il fait déjà ça. Tesla vend déjà des crédits carbone qui lui rapportent énormément d'argent. Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'il est bénéficiaire. Et d'ailleurs aussi grâce au Bitcoin, puisqu'il a fait quand même pas mal de bénéfices depuis. D'ailleurs que Tesla a investi dedans. Donc c'est vrai que si Elon Musk est vraiment en plus moins pollué, etc., on peut aussi se demander pourquoi est-ce qu'il garde encore tous ces milliards là de Bitcoin qui est là en trésorerie. Peut-être aussi encore une fois pour des raisons financières, puisque ça a déjà généré pas mal de bénéfices, et puis ça risque, il y a encore des chances que ça en génère dans le futur.
Bon, alors on se souvient il y a quelques semaines quand Elon Musk avait annoncé que oui, le Bitcoin pouvait permettre de s'acheter une Tesla, c'était champagne dans l'univers des crypto-monnaies. Là, va falloir réapprendre à boire du champomy, les amis. Non, est-ce que vous attendiez à ce revers, Owen?
S'y attendre, non, pas du tout. Après, ça reste Elon Musk, hein, c'est l'un des plus gros entrepreneurs du monde et il prend des décisions cartésiennes, comme vient de l'expliquer Charlie. Mathématiquement, il devait y avoir un intérêt financier supérieur à se détacher du Bitcoin pour obtenir certaines aides et pourquoi pas obtenir des subventions, notamment celles que Joe Biden veut attribuer aux entreprises qui luttent contre le changement climatique. Évidemment, si les gens pensent que le Bitcoin consomme trop et si c'est une tendance qu'on a déjà parlé d'ailleurs même sur ce plateau, c'est-à-dire qu'on a déjà discuté du fait que beaucoup de gens gardent ces informations-là mais n'ont pas compris exactement comment fonctionne le Bitcoin et sa consommation. Le seul truc qui désole un petit peu venant d'Elon, c'est que la plupart des gens, notamment l'écosystème crypto, aimait beaucoup ces interventions, que ce soit pour le Bitcoin mais pour les autres crypto-monnaies aussi. Elon Musk se positionnait vraiment en protecteur des crypto-monnaies et donnait toujours une bonne vision de ces dernières. D'ailleurs, beaucoup de gens semblaient surpris quand Elon a publié en expliquant tout simplement que le Bitcoin consommait. Elon maîtrise parfaitement la consommation du réseau Bitcoin. Une personne comme lui, avec sa position dans l'industrie de l'électricité et des énergies renouvelables, il maîtrise parfaitement ce réseau. S'il a pris cette décision et qu'en plus il l'a annoncé publiquement, c'est pour une seule et simple raison, c'était un profit supérieur de pouvoir prétendre à ces fameuses subventions qui visent l'écologie. Même que ce soit vrai ou que ce ne soit pas le cas, à partir du moment où l'opinion publique est positionnée sur quelque chose, il faut suivre. Et quand les associations étaient contre le fait que Tesla accepte le Bitcoin, il a dû prendre une décision.
Et on a vu l'effet, bien sûr, sur les cours du Bitcoin. Vous avez suivi ça de près, évidemment. Vous avez beaucoup communiqué, dû expliquer les choses. Owen, bien sûr, on a un Bitcoin actuellement à 50 600 dollars. Le Bitcoin a donc accusé le coup cette semaine.
Alors oui, il y a eu plusieurs raisons. Évidemment, cette annonce-là, qui était plus qu'une simple annonce que Tesla qui unliste le Bitcoin, c'est surtout le fait que Tesla, qui donnait beaucoup d'énergie à cet écosystème, se voit en retirer. C'était plutôt un mouvement et un effet d'annonce important. Il y a eu 2-3 autres annonces. Évidemment, on ne sait jamais laquelle a eu le plus d'impact, mais il y en a eu une grosse, notamment sur le fait que Binance, une grosse annonce dans un gros média qui disait que Binance allait être sous investigation par différentes entités financières contre les analyses des flux et du blanchiment d'argent qui pourraient passer sur la plateforme. Cet article mentionne également le fait que Binance pourrait être l'une des plateformes qui a le plus gros taux de blanchiment d'argent de toutes les plateformes et de tout l'écosystème des crypto-monnaies. Après, il faut relativiser ça dans le sens où, premièrement, c'est une annonce de collaboration entre Binance et les autorités présentes. Pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a aucune faute qui a été émise, c'est simplement un début d'investigation. Donc, pour l'instant, il n'y a aucun fait qui a été remonté. Évidemment, en période de bull run avec des crypto-monnaies qui explosent, les particuliers et les investisseurs ont pris peur et ont vendu parce que n'importe quelle mauvaise annonce a de gros impacts dans ces périodes-là. Mais quand on dézoome un petit peu, dire que Binance fait probablement passer les plus gros flux de blanchiment d'argent au monde, c'est un petit peu comme dire la vérité que DHL et FedEx sont les plus gros importateurs de cocaïne dans le monde. C'est vrai, et c'est non pas parce que ce sont eux qui gèrent ce trafic, mais simplement quand on a une place omniprésente et tout simplement gigantesque dans un écosystème, la plupart des gros flux passent forcément par Binance. Tout comme DHL, contre son gré, est l'un des plus gros transporteurs de cocaïne, une plateforme de la taille de Binance qui brasse certaines journées 10, 15, 20, 30% des flux mondiaux de la crypto-monnaie se voit naturellement utilisée à des fins de blanchiment.
Voilà, un regard en tout cas sur ces évolutions, ces débats aussi qui agitent l'univers des cryptos et puis qui animent aussi bien sûr l'univers des économistes, ministres qui succèdent régulièrement sur ce plateau et qui souvent, c'est vrai, répètent que les cryptos, l'un de leurs défauts, c'est malgré tout que ces cryptos, ben, sont pas bonnes pour l'environnement. Et là, les propos, les arguments mis en avant par Elon Musk vont sans aucun doute nourrir leur moulin. À l'heure de l'investissement socialement responsable, est-ce que ce facteur pourrait limiter le potentiel des cryptos, Vincent? On voit les thématiques, les critères ESG, l'environnement, la gouvernance, le social, dévorer le potentiel des cryptos. D'après vous, les investisseurs devront faire le choix entre l'investissement responsable et les cryptos? Ils ne pourront pas faire les deux à la fois?
L'adoption des cryptos, c'est un sujet brûlant. Les détracteurs des cryptos aiment bien à chaque fois systématiquement mettre en avant le fait que voilà, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et donc la pollution qui serait monstrueuse. C'est très partisan finalement, chacun a son opinion. Et par rapport à cette thématique de l'environnement, en fait, tout le monde peut construire son argumentaire, tout le monde peut faire le sophiste et arriver en fonction de son positionnement, arriver à une conséquence en fonction de son positionnement.
Tout à fait.
Je rejette ou j'accepte. Alors, par rapport à la pollution, pour créer un bitcoin, ça passe par l'activité de minage, ça consomme de l'électricité, oui, forcément, de l'électricité. Ce qui compte, alors, cette électricité est importante en termes de consommation absolue, mais pour juger d'un point de vue environnemental, il faut regarder du côté de la source de cette électricité. Et ce que l'on sait, c'est qu'une majorité de cette électricité vient des énergies renouvelables. Mais quoi qu'il en soit, les crypto-haters, de toute façon, trouveront toujours un argument sur ce côté-là pour attaquer la consommation d'énergie fossile par les cryptos. Donc, ça reste trop partisan pour être vraiment argumenté rationnellement.
Mais on a vu hier, par exemple, alors une crypto, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler les uns les autres, sûrement, parce que c'est vous les spécialistes, Bitgreen, bon, une des cryptos réputées les plus green, elle le porte dans son nom, et qui a gagné après l'annonce d'Elon Musk, qui a critiqué donc le côté polluant, d'après lui, du Bitcoin. Ben, cette crypto-là a gagné, a pris 450% sur l'idée qu'elle était peut-être un peu plus verte que les autres. Charlie, comment est-ce que vous regardez ces débats-là autour de l'impact écologique, environnemental, l'ISR aussi, face aux crypto-monnaies?
Oui, bah, effectivement, oui, il y a pas mal de cryptos qui, ces derniers jours, d'ailleurs, qui ont un peu profité, hein, de tout ça. Les cours ont explosé, comme vous le disiez, Guillaume, sur notamment, voilà, Bitgreen. Il y a aussi Chia, qui est aussi très, très récent. Alors, évidemment, ils prétendent tous un peu résoudre les problèmes, voilà, écologiques de Bitcoin via des mécanismes, bon, alors là, assez techniques. C'est vrai que c'est difficile encore aujourd'hui de savoir si, voilà, ils vont tenir ses promesses, puisqu'on parle de crypto-monnaies qui sont assez jeunes et donc qui n'ont pas le même niveau, qui ne sont pas à la même échelle, hein, que Bitcoin ou Ethereum. Bon, c'est vrai que globalement, on va dire, la plupart des cryptos ne sont pas vraiment green-friendly, si on peut dire, mais en tout cas, c'est un sujet qui est très débattu aujourd'hui, comme d'ailleurs dans plein de secteurs en fait de l'économie. Il y a beaucoup de projets qui viennent justement améliorer ces fameuses empreintes carbone. On sait que Ethereum est en train de faire une mise à jour pour améliorer ça. Bitcoin, pareil, a des choses dans les cartons pour éviter de tout faire passer par ce qu'on appelle un peu sa chaîne principale et faire plutôt du offline, voilà, versus du online, voilà, pour simplifier. Mais forcément, tout ça, c'est très long. Parce que comme si on changeait des systèmes informatiques, c'est forcément, voilà, long. Et les banques, d'ailleurs, si on peut faire une petite comparaison, mais elles n'ont pas arrêté non plus de financer, voilà, les énergies fossiles, voilà, du jour au lendemain, d'ailleurs, certaines continuent. Donc il faut attendre. Mais en tout cas, effectivement, il y a beaucoup plus de projets qui arrivent, qui alors soit se marketent un petit peu comme ça, ou d'autres qui ont vraiment des fortes convictions. On a parlé déjà à plusieurs reprises ici de Tezos, hein, qui est un protocole assez connu, qui est aussi moins énergivore parce qu'il n'est pas basé sur cette fameuse puissance de calcul, mais sur vraiment l'utilisation active en fait de son capital, combien on détient de crypto. Donc c'est quand même, il y a quand même de belles promesses, mais effectivement il faut quand même laisser un petit peu de temps. C'est quand même une industrie très jeune.
Elon Musk, comme l'appelle Owen, a donc jeté cette semaine, en tout cas, un pavé dans la mare. Méfiez-vous de vos amis, parfois. C'est peut-être ce que se diront les adeptes des crypto-monnaies, en tout cas du Bitcoin. L'autre homme du moment, c'est Vitalik, 27 ans, presque l'âge d'Owen aussi. C'est lui l'autre homme qui a fait vaciller le marché des cryptos cette semaine. Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum. Que s'est-il passé, Owen?
Ah, c'est sûr qu'à force de les mentionner et de les citer toutes les 5 minutes, on en oublie presque les noms de famille. Alors, Vitalik Buterin, ça dépend comment on le prononce, est le fondateur de l'écosystème Ethereum, de l'une des blockchains d'infrastructures les plus utilisées, puisque c'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie actuellement référencée derrière le Bitcoin, eh bien, Vitalik Buterin a dû rendre ses adresses publiques, les adresses sur lesquelles il détient personnellement une grosse quantité de crypto-monnaie, afin de pouvoir être transparent vis-à-vis de sa communauté et de prouver qu'il ne vend pas, qu'il n'échange pas, bref, pour avoir une transparence sur ce qu'il détient lui-même d'Ether sur son propre projet. Eh bien, énormément de personnes, depuis le mouvement et l'augmentation du Dogecoin, on en a parlé la semaine dernière sur ce plateau, eh bien, beaucoup de gens se sont mis à créer des coins qui n'ont strictement aucune valeur, aucune histoire et aucun fondamental. Le Shiba Inu Coin, l'Elon Coin, justement, il y a également l'Akita Coin, plein de coins avec des représentations humoristiques qui ne servent à rien, et ces créateurs en ont envoyé à l'adresse de Vitalik Buterin, qui était totalement public, afin de pouvoir dire et utiliser l'argument du « regardez, le fondateur d'Ethereum lui-même en détient ». Il en a eu marre, et à un moment, il a été vendre d'un coup 100% de ses crypto-monnaies, on va dire, créées de la dernière pluie, je pense qu'on peut le dire. Il a été les vendre d'un coup pour récupérer des dollars, et il a fait un don de ces dollars qu'il a obtenus. Ça a évidemment fait écraser les cours, hein. On a eu moins 35% sur le Dogecoin, 75% sur le Shiba Inu Coin et moins 50% sur le Elon Coin. Wow. Bref, ces crypto-monnaies-là se sont effondrées naturellement. Elles n'étaient là que par les spéculateurs et des gens qui s'en fichaient de savoir ce qu'il y avait derrière, qui voulaient juste s'amuser à gagner ou à perdre sur du court terme. Lui, il a tout vendu d'un coup. Sa mouvement baissier à tous ces coins qui sont pas très suivis, pas très connus et surtout plus là pour l'humour qu'autre chose. Et ces 60 millions ont été versés à une association qui utilise des mathématiques. Et où est-ce qu'on a vraiment besoin d'investir dans le monde pour soutenir des pays en difficulté, la famine, la médecine, etc., etc.
Voilà, Vitalik Buterin, Buterin, je sais pas comment on prononce, Charlie, vous savez peut-être d'ailleurs.
Je parierais plutôt sur Buterin.
Il est russo-canadien, il est russe d'origine, mais ouais. Il a vécu essentiellement au Canada. Pourquoi ces faits et gestes sont toujours autant scrutés? C'est un type incroyable, 27 ans, il manipulait les ordinateurs dès l'âge de 4 ans apparemment, et il a publié une théorie sur les lapins, oui, à l'âge de 7 ans apparemment, une théorie très sérieuse.
Oui, bah c'est vrai que c'est une des plus grandes figures aujourd'hui en fait dans le marché des cryptos, hein, déjà puisqu'il représente un peu la deuxième hein, crypto en termes de valorisation. Et puis il faut dire que le créateur du Bitcoin, lui, on le connaît pas. C'est quelqu'un, voilà, il a juste un pseudo, donc qui est Satoshi Nakamoto. Donc c'est vrai qu'on a toujours Vitalik Buterin en tête quand on parle du monde des cryptos. Et effectivement, c'est un peu, voilà, c'est quelqu'un qui est très bon techniquement. Hein, on peut même dire quand même que c'est un petit génie hein, vu ce qu'il a développé, donc il est forcément très respecté parmi les développeurs. D'ailleurs, c'est très impressionnant quand vous allez à des événements, quand il est présent, et c'est un peu comme une star en fait de la chanson, je sais pas, du cinéma. Il y a des attroupements autour de lui, il y a plein de gens qui veulent aller lui parler, un peu comme ça, fait un petit peu comme un gourou. C'est assez drôle à voir, mais c'est vrai que c'est, voilà, comme vous dites, il publie énormément de papiers, alors c'est à se tirer les cheveux, voilà, mais c'est toujours des choses qui sont très bien documentées, très bien pensées. Il réfléchit sans cesse à des améliorations du protocole, et puis contrairement peut-être avec Elon Musk, il est peut-être un peu moins girouette forcément, puisqu'il est là aussi pour forcément encourager le monde des cryptos. Il a tout intérêt à ce que ça marche, donc voilà, quand il dit quelque chose, en général c'est quelque chose, voilà, de très fiable, de valable peut-être, qu'on peut dire. Et pourtant aussi, il est très très présent d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le voir d'ailleurs tweeter très régulièrement.
Et c'est pas
comprendre.
Oui, certes. même les adeptes des cryptos ne comprennent pas tout de ce que prononce ou explique Vitalik Buterin. Bon, bref. Et c'est pas dangereux, c'est pas inquiétant néanmoins qu'un seul homme influe à ce point le cours de certaines crypto-monnaies, Charlie?
Quand même un peu, même si là vraiment dans les deux cas, comme on a parlé d'Elon Musk et maintenant de Vitalik Buterin, c'est vrai qu'avec Elon Musk, on peut pas s'empêcher en fait de penser qu'il a forcément ses propres intérêts en fait, parce que voilà, il tweet un jour que voilà, Bitcoin c'est génial, et en fait après on apprend quelques semaines plus tard que Tesla a acheté des Bitcoins, forcément que son entreprise a bénéficié de tout ça, bon, virtuellement bien sûr. Bon, on peut dire aussi que dans le cas de Vitalik Buterin, c'est un petit peu la même chose, puisqu'il a lui-même possède énormément d'Ether, donc la crypto-monnaie issue d'Ethereum. Mais on va dire que lui, c'est peut-être un peu plus mesuré. Déjà, il met en garde assez régulièrement sur des arnaques, sur les modes qu'il peut avoir, les petites tendances au sein de tout cet univers, comme on a beaucoup parlé des ICO, donc les levées de fonds en crypto-monnaie il y a quelques années. Mais bon, c'est vrai qu'au final, il a quand même intérêt à ce que globalement le marché des cryptos prenne. Donc inquiétant, bien sûr, puisque on a encore vu ces derniers jours les hausses et baisses qu'il peut y avoir sur le marché.
Voilà, après les propos de Vitalik Buterin ou encore d'Elon Musk, c'est inquiétant de votre point de vue, Owen. Même question qu'à Charlie à l'instant, il faut y voir un signe de fragilité pour les crypto-monnaies ou finalement on apprend à vivre avec?
Ouais, je pense vraiment que c'est une question d'habitude. Ça effraie et ça peut être dangereux pour un investisseur qui rentre dans le monde des crypto-monnaies mais qui n'a pas les codes. Une personne qui a compris comment fonctionnent les crypto-monnaies, déjà il sait qu'il est sur un marché qui est jeune et où il y a moins de liquidités que la plupart des marchés. Donc le moindre impact peut avoir un vrai effet boule de neige. Ensuite, on comprend que c'est pas seulement la parole de ces personnes emblématiques qui compte, mais également l'impact que ça a sur les communautés. Des fois, la communauté interprète mal ce qui a été dit par cette personne et du coup, ça peut avoir un vrai effet boule de neige parce que la crypto-monnaie, c'est la communauté justement. Et donc une incompréhension ou un mouvement d'excitation ou de peur peut avoir de grosses conséquences. Et pour finir, on est dans le bull run, on est dans une phase qui arrive tous les 3-4 ans et où les marchés se précipitent, où il y a des débutants, où il y a des gens qui n'ont pas les bases et qui n'ont pas envie de les avoir, qui ont juste envie de mettre de l'argent sans réfléchir. Et évidemment, cet effet d'accumulation fait que des grosses personnalités mondiales comme Elon Musk ou encore de la crypto-monnaie comme Vitalik Buterin peuvent avoir des impacts conséquents sur les marchés. Et ça ne surprend même plus vraiment les personnes qui connaissent ce marché. Par contre, les débutants qui l'ont découvert il y a 3 mois, eux, se retrouvent dans une situation où ils sont surpris et où forcément, ils commencent à se poser les bonnes questions.
Parce que ce n'est pas les codes habituels, ce n'est pas les codes dont on a l'habitude non plus sur les actions. Ou au contraire, quand même, Vincent, on arrive à trouver des personnalités qui, comme ça, parviennent aussi à avoir un impact très fort sur certaines valeurs, certaines valorisations.
Je dirais deux choses. Le monde crypto, c'est avant tout un monde de geeks. En tout cas, ceux qui maîtrisent vraiment. Effectivement, ce que disait Owen à l'instant, les traders privés qui arrivent et qui se lancent comme ça dans une crypto qui monte sans fondamentaux. En fait, toutes ces cryptos qui montent sur du vent, uniquement sur des flux privés, ça peut faire moins 80, moins 90. Juste sur la question, ce processus de starification au sein du marché des crypto-monnaies, il existe parce que un projet au sein de la blockchain, il a un créateur. Donc déjà, voilà. Bon, les entreprises, elles ont des créateurs, mais ça fait un certain temps. Alors, sur le marché action, starification, écoutez, je dirais que les banques centrales sont les stars depuis la crise financière de 2008 et au final
vous êtes gonflé,
chaque marché a ses stars, donc bon, je ne mettrai pas ça en défaveur des cryptos, cette starification des leaders geeks.
Bon, et ça continue, cet univers des cryptos, il continue de se constituer. On n'a plus le temps, malheureusement. On voulait vous parler aussi, Owen et Charlie voulaient vous parler de ce nouveau projet qui fait l'entrée fracassante dans le top 10 des cryptos ces derniers jours, Internet Computer. Eh ben on en reparlera la semaine prochaine. Voilà, c'est tout. Puisqu'on est arrivé au bout du timing, c'était passionnant. Merci à tous les trois de nous aider chaque vendredi à décrypter l'univers crypto, les pros des cryptos sur BFM Business. Vincent Gann, TradingView France. Merci Vincent. Charlie Perrault pour le journal du net, le JDN. Merci Charlie. À bientôt. Un grand merci à Owen, également Owen Simolin, alias Asher, et sa chaîne YouTube que vous pouvez retrouver. Il est actif même le week-end et je crois qu'il n'a pas de week-end, lui. Le CAC 40 en ce moment est en train de progresser. Nouvelle belle progression d'1,3%. On se reconnecte à la séance du jour. Dans une poignée de secondes, le club jusqu'à la clôture des marchés. À tout de suite sur BFM Business.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.